Chapitres 8 et 9. Le déluge. Suite. Les eaux baissent. Revenons maintenant à l'histoire de Noé et voyons-le sortant de l'arche et prenant place dans le monde nouveau. Et Dieu se souvint de Noé. Chapitre 8, verset 1. L'œuvre étrange du jugement étant passée, la famille de Noé, avec tout ce qui lui est associé, est remise en mémoire devant Dieu. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent, et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Verset 2. Le jugement est l'œuvre étrange de Dieu, et bien qu'il soit glorifié par le jugement, il n'y prend pas plaisir. Au contraire, il se plaît à faire miséricorde. Et il arriva au bout de 40 jours que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Versets 6 et 7. L'oiseau impur s'échappa et trouva probablement un lieu de refuge sur quelques cadavres flottants. Il ne retourna pas dans l'arche. Mais la colombe, lâchée elle aussi, ne trouvant pas où se poser, revint vers Noé. 7 jours plus tard, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche, et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Versets 10 et 11. C'est une belle image de l'esprit renouvelé qui, au milieu de la désolation dont il est environné, trouve son repos et sa part en Christ, témoignant que le jugement est passé et qu'une terre purifiée commence à apparaître. L'esprit charnel, figuré par le corbeau, peut se reposer en tout, excepté en Christ. Il peut se nourrir de toutes sortes d'impuretés. La feuille d'olivier n'a pas d'attrait pour lui. Que le Sauveur demeure le repos et la part de nos cœurs, afin que nous ne les cherchions pas dans un monde qui est sous le jugement de Dieu. Noé sort de l'arche. Et Dieu parla à Noé, disant, « Sors de l'arche. » Et Noé sortit. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel. Versets 15 à 20. L'obéissance de la foi et le culte de la foi vont ensemble. Un autel est élevé sur la terre même où venait de passer le jugement. Remarquons que c'est à l'Éternel que Noé bâtit un autel, et non à l'arche, son moyen de salut. Le cœur est toujours porté à mettre les ordonnances à la place de Dieu. La foi de Noé s'élève de l'arche au Dieu de l'arche. C'est pourquoi, en la quittant, au lieu d'hésiter et de jeter un regard en arrière, ou de considérer l'arche comme un objet de culte ou de vénération, il bâtit un autel à l'Éternel et adore l'Éternel. Et il n'est plus fait mention de l'arche. À l'inverse, l'Écriture nous rapporte que, plus tard, les Israélites adorèrent le serpent d'airain. Ce qui avait été, entre les mains de Dieu, un moyen de bénédiction pour eux, était devenu un objet de vénération superstitieuse. Et il a fallu qu'Ézéchias le mette en pièces comme n'étant qu'un morceau d'airain, Nehushtan. Vous voyez 2 Rois 18, verset 4. La superstition perd de vue le dessein réel de Dieu et fait un Dieu de l'instrument qui, par lui-même, n'a aucune valeur. Dans le chapitre 9, l'Écriture nous fait connaître l'alliance sous laquelle la création fut placée après le déluge et le signe de cette alliance. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. » Chapitre 9, verset 1. Le commandement que Dieu donne à l'homme à son entrée dans la terre purifiée, c'est de remplir la terre. Sa volonté était que les hommes soient dispersés sur toute la surface de la terre et qu'ils ne comptent pas sur leurs forces concentrées comme ils ont tenté de le faire, ainsi que nous le rapporte le chapitre 11. Après le déluge, la crainte de l'homme est placée dans l'âme de toutes les créatures inférieures. La vie, comme la mort des animaux, doivent être au service de l'homme. L'arc de Dieu dans la nuée. La création tout entière est délivrée de la crainte d'un second déluge par l'alliance perpétuelle que Dieu fait avec elle. Le jugement ne revêtira plus jamais la forme sous laquelle il a été exécuté alors. Le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau, mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. 2 Pierre 3, versets 6 et 7. La terre a été une fois purifiée par l'eau, et elle sera encore une fois purifiée par le feu. Mais alors, ceux-là seuls échapperont, qui se seront réfugiés auprès de celui qui a passé par les profondes eaux de la mort et qui a traversé le feu du jugement de Dieu. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous. Je mettrai mon arc dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance. » Chapitre 9, versets 12 à 15. Toute la création repose sur la stabilité de l'alliance de Dieu, dont l'arc est le signe, et elle n'a pas à craindre un second déluge. De plus, et nous devons nous en réjouir, quand l'arc paraît dans la nuée, l'œil de Dieu repose sur lui, en sorte que la sécurité de l'homme dépend non de sa propre mémoire, imparfaite et incertaine, mais de la mémoire de Dieu. « Je me souviendrai, » dit-il. Il est doux de penser à ce dont Dieu veut et ne veut pas se souvenir. Il se souviendra de son alliance, mais il ne se souviendra pas des péchés de son peuple. La croix qui ratifie la première efface les derniers. La foi en saisit la valeur et donne la paix à la conscience. Et il arrivera que, quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors l'arc apparaîtra dans la nuée. Verset 14. N'est-ce pas là une belle et expressive image? Les rayons du soleil, reflétés par ce qui menace du jugement et rendus plus glorieux par les nuages mêmes qui s'amoncellent devant eux, tranquillisent le cœur en rappelant l'alliance de Dieu. L'arc dans la nuée rappelle le calvaire. Là, nous voyons un sombre nuage, un nuage de jugement, se décharger sur la tête de l'agneau de Dieu. Un nuage si épais qu'au milieu même du jour, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Luc 23, verset 44. Mais, que Dieu en soit béni, les rayons de l'amour éternel de Dieu percent l'obscurité, et la foi discerne, dans ce nuage si sombre, l'arc le plus beau et le plus glorieux qui ait jamais paru. Elle entend les paroles « C'est accompli », sortir du milieu de l'obscurité. Et dans ces paroles, elle reconnaît la ratification parfaite de l'alliance perpétuelle de Dieu. Noé s'enivre. La fin de ce chapitre présente un spectacle humiliant. Celui qui a été fait seigneur de la création ne sait pas se gouverner lui-même. Et Noé commença à être cultivateur, et il planta une vigne, et il but du vin, et il s'enivra, et se découvrit au milieu de la tente. Chapitre 9, versets 20 et 21. Quel état pour Noé, le seul homme juste, le prédicateur de la justice. Hélas, qu'est-ce que l'homme? Dans quelque position que nous le considérions, nous le voyons toujours faillir. Il manque en Éden, il manque dans la terre purifiée par le déluge, il manque en Canaan, il manque dans l'Église, il manque en présence de la gloire et du bonheur millénaire. Il manque partout et en tout. En lui n'existe aucun bien. Quelque grand et quelque étendu que soient ses privilèges, quelque belle que soit sa position, il ne sait produire que faute et péché. Nous avons à considérer Noé sous deux points de vue, comme type et comme homme. Or, tandis que le type est plein de beauté et de signification, l'homme est plein de péché et de folie. Et pourtant, l'Esprit de Dieu a écrit « Noé était un homme juste. Noé marchait avec Dieu. » Chapitre 6, verset 9. La grâce divine avait couvert ses péchés et l'avait revêtu d'une robe de justice. Il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Chapitre 6, verset 8. Lors même que Noé a découvert sa nudité, Dieu ne le regardait pas dans la faiblesse de sa propre condition, mais dans la puissance de la justice divine. Ceci nous fait comprendre combien Cham errait, combien il était éloigné de Dieu et étranger à ses pensées en agissant comme il l'a fait. Il n'avait évidemment pas goûté le bonheur de l'homme dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Psaume 32, verset 1. En revanche, la conduite de Sem et de Japhet nous fournit un bel exemple de la manière dont Dieu envisage la nudité de l'homme et agit envers elle. Aussi hérite-t-il d'une bénédiction, tandis que Cham hérite d'une malédiction.